www.radioscoop.fr. Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI, bien entendu, et avec plein d'actualités aujourd'hui.
Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir la CAN 2019.
La CAN 2019 au pays des pharaons. L'Égypte a donc été désignée par la Confédération africaine pour organiser la compétition africaine de football en juin prochain. 5 mois et 1 semaine pour se préparer à accueillir une CAN qui comptera pour la première fois 24 participants. Une désignation qui survient au moment où le football égyptien est de retour. Gros plan sur cette future CAN dans Radio Foot aujourd'hui. Gros plan aussi sur Manchester United. Cette équipe à la peine sous la direction de José Mourinho a aligné 4 victoires en 4 matchs du Boxing Day avec des joueurs retrouvés, notamment Paul Pogba. Le PSG n'a qu'à bien se préparer. Les Red Devils sont de retour, n'est-ce pas Dominique Sévrac?
Oui, bonne année Annie, bonne année à tout le monde.
Bonne année à vous Dominique.
RFI.
Bon, ils tremblent ce PSG?
Bah, ils peuvent maintenant.
Ils peuvent, hein? Bon. Salim Bongali, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Alors vous, est-ce que vous allez faire trembler le PSG?
Oh, pas moi, puisque c'est Manchester United qui va faire trembler, qui va faire que le PSG sera éliminé. On peut déjà d'ores et déjà le dire.
Ah oui, vous avez déjà, c'est votre prédiction pour 2019. Et vous osez souhaiter une bonne année à Dominique?
Non, à vous surtout.
Et aux auditeurs aussi.
Exactement.
Patrick Juillard, bonjour.
Bonjour Annie,
Patrick,
bonne année
l'Égyptien
à
aujourd'hui.
Vous, à toutes et à tous, et en particulier aux auditeurs et auditrices de Libreville, auxquels je pense très fort aujourd'hui.
Ils vous écoutent?
Voilà, et du Gabon
ils
en général.
Ils nous écoutent, n'est-ce pas? Oui, au Gabon, à Kinshasa, peut-être, s'ils essayent par les ondes courtes. Frédéric Suto, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Allez, Radio Foot, c'est parti. La CAN au pied des pyramides. Ce matin, l'Égypte a donc été choisie par le comité exécutif de la CAF pour organiser la prochaine compétition phare du continent africain. L'édition qui aurait dû se dérouler au Cameroun se tiendra donc sur les bords du Nil, dans un pays choisi parce qu'il était candidat. L'Égypte était candidate en même temps que l'Afrique du Sud. Ce n'est pas vraiment une surprise d'ailleurs que l'Égypte ait été désignée. Et on va tout de suite rejoindre Christophe Jousset, qui se trouve à Dakar, le lieu où a été prise cette décision. Bonjour Christophe.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors Christophe, sur ces quelques notes égyptiennes que nous diffuse Laurence Alerno, je voulais vous demander le choix de l'Égypte. On l'avait évoqué hier, c'était la grande favorite, cette candidature égyptienne. Elle a eu en plus le soutien d'une large majorité. Finalement, la nouvelle a été divulguée aujourd'hui.
Oui, alors après, à l'issue d'un suspense quand même assez assez gratiné, je vais vous dire quand même qu'on est passé par tous les états. La CAF avait annoncé que le comité exécutif était avancé de 24 heures et qu'une conférence de presse suivrait ce comité exécutif. Donc tout le monde se retrouve ce matin dans un hôtel du bord de mer à Dakar avec la certitude que la décision serait prise et aussitôt rendue publique. Or ce matin quand on arrive, l'entourage du président Hamad nous explique qu'on a mal compris, que certes le comité exécutif est avancé mais que l'annonce devrait intervenir comme prévu initialement ce mercredi. Bon, dans ce cas-là, tout le monde se regarde à ce moment-là. On voit un journaliste algérien qui se décompose parce qu'il vient de modifier son billet d'avion pour rentrer 24 heures plus tôt que prévu. On voit le camion de la radio-télévision sénégalaise qui est sur le parking de l'hôtel pour le direct. On se voit nous-mêmes se demander à quel moment on a bien pu décrocher. Finalement, le comité exécutif a lieu, et puis au bout de quelques dizaines de minutes de débat, une porte s'ouvre, la porte du bureau du comité exécutif, une centaine de journalistes qui se ruent dans la salle du comité exécutif. Le silence a mis un petit peu de temps à se faire, Et on a pu à ce moment-là entendre le président Hamad qui a annoncé le choix du comité exécutif. Et donc, ce qu'on a, c'est quelques mots qu'on a entendu en début d'émission, Annie, c'est bien l'Égypte qui organisera la CAN 2019.
Et alors le vote, apparemment, n'a pas fait de problème, puisque sur 18 voix, on en a 16 en faveur de l'Égypte.
Oui, alors on n'a pas eu exactement les mêmes chiffres que vous. Moi j'ai eu 17 présents, 15 pour l'Égypte, un nul et une voix pour l'Afrique du Sud. Non, en fait, à la limite, peu importe, on n'a pas pu vérifier définitivement ces informations, mais on voit bien de toute façon qu'il y a une quasi-unanimité en faveur de cette candidature égyptienne qui s'avance donc vers une cinquième CAN dans son histoire. Qui devra faire avec la chaleur, puisqu'on en va jouer en juin-juillet et que les températures peuvent frôler, avoisiner les 35 degrés, qui devra faire avec les problèmes de sécurité, mais bon, j'imagine que vous allez parler de tout ça. Et puis, en ce qui concerne la répartition des groupes, ça, c'est une info l'on nous a donnée, une info CAF, de source de la CAF. Il y aurait, sur le total de 6 groupes, 6 groupes de 4, il y aurait 2 groupes au Caire, 2 groupes à Alexandrie, 1 à Ismaïlia et 1 à Port Saïd.
D'accord. Merci beaucoup, Christophe Jousset, pour ces informations donc et ces détails, surtout de la répartition des groupes. Nous allons y revenir ici. On vous laisse partir vers le lieu de la remise du prix, du trophée CAF du meilleur joueur africain. Ça sera ce soir et ça sera peut-être une double journée égyptienne, puisque Mohamed Salah est l'un des 3 nommés avec Sadio Mané et avec Pierre-Emerick Aubameyang. Et Mohamed Salah remporte en tout cas les suffrages du favoritisme. Merci beaucoup, Christophe.
Merci, bonne émission.
Merci. Justement, Christophe Jousset était à Dakar. Le président de la CAF, vous avez entendu quelques secondes tout à l'heure en ouverture de cette émission, confirmait donc que l'Égypte avait été choisie. On va l'écouter, le président Hamad, qui explique en plus long au micro de Christophe Jousset et de David Kalfa pourquoi l'Égypte a été désignée.
C'est par rapport à l'engagement du gouvernement, parce que l'autre dossier, il n'y en a pas d'engagement du gouvernement. Il y a la garantie tout d'abord, il n'y a pas cette garantie, mais en plus, il n'y a pas l'engagement énorme du gouvernement. Tandis que l'Égypte, il y a encore l'engagement du Premier ministre, pas seulement du ministre des Sports, mais par-dessus tout, il y a aussi le budget qui a été déjà alloué. Donc c'est tout ça qui a fait que... Puis l'explication a été très claire de Roland Berger, les deux pays équivaut au niveau infrastructurel. Donc la seule question, c'est quoi? C'est de voir le pays où il y a un fort engagement du gouvernement. C'était ça qui a pesé la balance.
La question de la sécurité en Égypte n'a pas pesé?
Si, la question, il y a les documents, on peut vous donner et l'analyse de Roland Berger sur les sécurités. Ça a pesé, comme dans tous les pays. Tout le monde, avant la Coupe du Monde 2018, avait eu peur du problème de sécurité en Russie. Mais ça leur a permis de travailler à fond pour que incident zéro pendant la Coupe du Monde. Nous-mêmes, c'est une réalité. La France aujourd'hui présente des risques énormes au niveau du terrorisme surtout. C'est malheureux. Mais ça n'empêche pas l'UEFA ou la FIFA d'organiser la Coupe du Monde cette année. Mais le grand enjeu, c'est de coopérer avec l'État, que l'État s'engage à fond pour parer, parce qu'ils ont des spécialistes en matière de sécurité du terrorisme, mais en plus de ça, ils ont aussi la contribution des techniciens de la FIFA en matière de sécurisation des matchs, des grands événements sportifs. C'est ce que nous allons faire. Là même, avant notre réunion, que ce soit en Afrique du Sud, la CAN ou en Égypte, j'ai déjà pris une décision il y a 15 jours passés pour un recrutement d'un spécialiste en sécurité qui travaillait à la FIFA comme adjoint au niveau de la sécurité des stades et tout. Et ils ont cette expérience-là, il est déjà en permanence. Et là, ce n'est pas rester laissé seulement en permanence, mais on va essayer de travailler jour après jour à partir du mois de février dans chaque site de compétition, dans chaque ville, pour voir ensemble avec les autorités égyptiennes, comment mettre en place les dispositifs de sécurité pour que ce soit dans les fan zones, dans les hôtels, partout, pour qu'il y ait. Nous avons vu la Coupe du Monde 2014. Moi-même, j'ai quelques amis des filles en Afrique, au Brésil, qui ont été dérobées de leur. Donc tout ça, ça fait partie, malheureusement, de fléaux de notre vie moderne, qu'il faut prendre en compte et qu'il faut travailler jour après jour.
Le calendrier est maintenant éclairci. La CAN 2019 en Égypte, la CAN 2021 au Cameroun, la CAN 2025 en Guinée. Qu'en est-il de la Côte d'Ivoire et de 2023 où en êtes-vous?
On ne les oblige pas. On attend de discuter avec les autorités s'ils veulent le prendre. Ou sinon, comme d'habitude, c'est le choix du pays. Et c'est le choix de la CAF. Et la CAN, c'est ce que j'ai dit souvent, c'est pas l'affaire seulement de la fédération avec la CAF, c'est l'affaire de la CAF avec les États.
Vous irez en Côte d'Ivoire prochainement?
Sûrement. Je vais aller, par respect envers le président, je vais aller le voir.
C'est au programme,
c'est d'abord? C'est dans le programme. Avant les 2 mois qui arrivent, je trouverai une opportunité d'aller le voir.
Voilà donc le dénouement de ce long feuilleton autour de la candidature du Cameroun qui s'était terminé le dernier 30 novembre lorsque le Cameroun avait été dessaisi de l'organisation. Et ce sera donc l'Égypte. Patrick Juillard, ce dénouement vous surprend? Parce que c'est vrai que pendant longtemps, entre nous en tout cas connaisseurs, on va dire un peu du dossier, on avait cru que le Maroc était sans doute le meilleur remplaçant au pied levé. Et là, c'est l'Égypte qui a 5 mois et une semaine.
Oui, alors effectivement, le Maroc était a priori le favori désigné lorsque le Cameroun s'est vu retirer l'organisation. Maintenant,
parce qu'eux ont des installations aussi.
Et à l'époque, on se rappelle que l'Égypte avait elle-même retiré sa candidature potentielle sur le thème « on fera pas barrage à un autre pays
pas d'ombre,
arabe
hein. ».
Une fois que le Maroc a décidé de ne pas postuler, ben l'Égypte évidemment s'est remise sur les rangs et pour moi c'était le meilleur choix possible parce que l'Égypte a une vraie volonté d'accueillir une Coupe d'Afrique. L'Afrique du Sud ça aurait été un pompier de service et à chaque fois d'ailleurs que l'Afrique du Sud a organisé la CAN ces 20 dernières années, c'était toujours pour pallier une défaillance et je pense que le football sud-africain et l'Afrique du Sud en général méritent mieux que ce statut-là, donc je pense que c'est un pays qui mérite d'organiser une CAN mais avec une vraie volonté de le faire comme lorsqu'il avait organisé la Coupe du Monde. Si c'est pour faire une CAN un peu sans âme et sans enthousiasme comme en 2013, moi je préfère, malgré tous les risques qui ont été invoqués de sécurité, je préfère que ce soit en Égypte.
Il y a quelques bémols, effectivement, parce qu'il y a les conditions de sécurité. Alors, le président Hamad en parle largement, mais c'est vrai qu'il y a eu un attentat récemment contre des touristes, voilà, pas loin des pyramides. Il y a aussi la forte chaleur. Oui. Salim, c'est aussi... parce qu'on en parlait pour le Maroc, ça aurait été l'hiver en Afrique du Sud, mais là, c'est carrément l'inverse.
C'est ça. Le truc, c'est que on a inversé les périodes de CAN en les mettant l'été, justement pour, certes, au final se caler sur les calendriers des principales compétitions,
à
notamment
caler,
en Europe.
Il y a plein d'événements en même temps.
Et d'ailleurs, le calendrier de la Ligue des Champions africaine, à partir de cette saison, est calé lui aussi sur celui de la Ligue des Champions européenne.
Et au final, ça nous donnera donc une compétition. Je rappelle que la Coupe du Monde au Qatar, par exemple, a été inversée et va se dérouler en hiver, donc à des températures potables, entre guillemets, 25, 27, 30 degrés. Là, on va atteindre les 35, 40 degrés sans problème. Ça va être très compliqué pour les organismes, pour le public. Enfin, ça, en revanche, c'est une très mauvaise nouvelle. Clairement, là où en Afrique du Sud, lors de la Coupe du Monde 2010, on avait des températures fraîches, alors très fraîches par moment, effectivement 10, 12, 15 degrés, mais au moins c'était potable pour les joueurs.
Oui, puis moi je suis pas météorologue, mais c'est vrai que vous avez différentes sortes de chaleur. Hein. Quand il fait 35 degrés au Caire, on a l'impression qu'il fait 50 degrés, on peut pas sortir. Non mais c'est complètement étouffant, et là on a du mal à imaginer comment les matchs vont pouvoir se disputer si effectivement le thermomètre monte aussi haut. Quoi.
Frédéric et Patrick, vous aviez suivi la CAN lorsqu'elle avait été déjà organisée en Égypte, c'était en 2006.
En janvier-février.
Alors voilà, là c'était en hiver. Mais parlez-nous de cette organisation, peut-être aussi de l'engouement qu'il y avait eu dans la population.
Alors moi clairement, j'ai le souvenir...
Ils avaient gagné en plus hein, cette année-là, les pharaons.
L'Égypte, les pharaons avaient gagné, c'était à l'époque...
contre la Côte d'Ivoire en final.
Voilà, hein, contre la Côte d'Ivoire, et c'était la première d'une série de 3 qui allait suivre, sous la houlette de Abou Trika, Barakat et tous ces grands joueurs-là. Moi, j'ai le souvenir d'un vrai engouement populaire, surtout lors des matchs de l'équipe nationale, voilà, parce que c'est quand même un public qui est très fervent pour son équipe, mais qui va pas forcément aller suivre un match Zimbabwe, Côte d'Ivoire, Angola. Ou Angola. Voilà. Ensuite, j'ai le souvenir d'une sécurité très renforcée, surtout qu'à l'époque, c'était en début 2006, c'était pendant l'affaire dite des caricatures de Mahomet. Et il y avait eu beaucoup de menaces d'attentats et donc les forces de sécurité étaient sur les dents. Il fallait arriver au stade parfois 3-4 heures avant. Je me souviens que pour la finale, les reporters s'étaient fait confisquer leur téléphone portable sous prétexte de sécurité, que soi-disant ça pouvait envoyer des dispositifs, pour des raisons un peu ésotériques. Obscure. On nous avait confisqué nos téléphones. À l'époque, c'était moins critique qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, une finale où on confisquerait les téléphones aux reporters, il n'y a plus de couverture possible.
Hein, en Russie, on n'en était pas loin pour la Coupe du Monde. Hein.
Voilà.
Il y avait un certain nombre d'appareils qu'il fallait laisser à la consigne.
Il faut en être conscient, ce sera des matchs dans des stades militaires avec des cordons de sécurité très importants. C'est pas la décontraction sud-africaine, mais il y a une ferveur. Alors, il y a pour moi un gros problème, c'est outre celui de la température, c'est la combinaison entre la température estivale très élevé et la pollution qui est énorme et surtout au Caire. Alexandrie, c'est beaucoup plus respirable.
Oui, hein.
Port Saïd aussi. Le Caire, c'est une étuve. Hein.
Or, il y aura deux groupes.
Chaleur
c'est
plus pollution au Caire.
Alors, il faut espérer qu'on ait un été pas trop chaud parce que, alors, je vais relativiser un peu.
Parce qu'il n'est pas l'intervention en général.
Quand on a une canne au mois de janvier au Gabon, il fait 32-35 hein, aussi. Hein. Et c'est température, il y a un fort taux d'humidité. C'est pas facile pour aussi. Les organismes non plus. Voilà, mais c'est vrai qu'il fera très chaud.
Et juste pour compléter le propos de Patrick, l'engouement, effectivement. Alors, on l'a vu, et Roque-Jean, évidemment, quand il y a une équipe nationale qui joue, forcément, il y a un engouement particulier, c'est bien logique. Mais on est donc dans une nouvelle compétition à 24 équipes, désormais non plus 16.
Beaucoup plus de matchs pour le premier tour.
Beaucoup
donc.
Plus de matchs et beaucoup plus d'équipes moindres, entre guillemets, qui accèdent. Hein. Forcément, c'est logique avec 24 équipes. Donc, dans certains stades qui sont très grands en Égypte, on verra peut-être, et malheureusement,
ça risque
surtout
de
des
sonner
stades
creux, ouais.
Vides, très vides, malheureusement, dans certains de ces groupes.
Moi, je me souviens de matchs en 2006 où on faisait venir les militaires, non pas pour assurer la sécurité, mais pour qu'il y ait 2000 spectateurs dans le stade. Ils étaient contents de sortir de leur caserne, mais des vrais spectateurs de foot sur certains matchs, il n'y en avait pas. Hein,
mais
il faut dire des choses.
Ça,
hein.
C'est pas particulier à l'Égypte. Moi, je me rappelle
les JO de Londres
2017 à Libreville, le match Tunisie-Zimbabwe, il y avait 700 personnes dans un stade de 40 000 places.
Hein. On se souvient qu'à Londres, on avait mis aussi au début des JO des militaires dans le stade pour qu'il y ait du monde.
Mais c'est un vrai pays de football. Voilà.
Ah, ça, par contre, ça fait aucun doute. Dès que vous prenez un taxi au Caire, le chauffeur va vous dire tout de suite s'il est pour le Hali ou le Zamalek. Et vous allez pouvoir parler pendant des dizaines de minutes parce que les trajets sont très longs avec lui. Et
avec beaucoup d'embouteillages.
En général, ils arrivent à parler en anglais, voire parfois en français. Et il y a une vraie passion qu'on ressent pas, même dans des pays maghrébins qui sont déjà assez fervents de football, à part peut-être l'Algérie, mais même au Maroc ou en Tunisie, on ne ressent pas une telle passion. Et il y a vraiment un supporterisme très fort chez les gens. Ils ont tous un blason, souvent au-dessus du rétroviseur dans les taxis, on voit un petit fanion aux couleurs de leur club. Et ça, c'est sympa.
Il faut aimer les klaxons aussi.
Ah ça, il faut avoir les oreilles bien solides. Quand on rentre à Paris après 3 semaines en Égypte, on a l'impression parfois qu'on est à la campagne à Paris. Quoi.
Frédéric Suto, en plus, cette équipe des Pharaons compte déjà, et c'est un record continental, 7 titres, 7 Coupes d'Afrique des Nations.
Oui, ils étaient même en finale de la dernière édition,
exact.
Hein, perdu face au
c'est
Cameroun.
C'est ça qui est intéressant.
C'est le plus beau palmarès africain, 7 victoires en Coupe d'Afrique des Nations. Et puis là, vous avez une équipe qui est passée à côté de sa Coupe du Monde, avec Mo Salah, le fer de lance, qui est arrivé blessé en Russie. Et pour l'équipe nationale, il va y avoir l'occasion de se racheter. Là, c'est une petite revanche. L'année qui suit la Coupe du Monde, on revient. Parce qu'ils ont une sacrée belle équipe quand même.
Finaliste en 2017, Coupe du Monde en 2018. Et Coupe des Nations à domicile.
Le Hali du Caire, le plus gros club du pays, reste sur 2 finales de Ligue des Champions de suite. Il les a perdues toutes les 2, mais c'est quand même significatif, puisqu'il fournit pas mal des internationaux. Et il y a un vrai retour de flamme. Ça a été aussi favorisé par la révolution, puisque à ce moment-là, les clubs égyptiens ont dû vendre leurs joueurs à l'étranger pour compenser la baisse des recettes billetterie. Et donc, ça a vraiment changé un peu la face du football égyptien. Il y a de plus en plus de joueurs qui sont rompus au plus haut niveau mondial puisqu'ils évoluent très jeunes en Europe, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, l'équipe est assez intéressante à ce niveau-là. Ils se frottent de plus en plus à d'autres cultures du foot et je pense que c'est très prometteur. Alors au dernier mondial, c'était Hector Cooper, leur sélectionneur, un Argentin hyper restrictif, qui joue un foot du béton, même l'Italie des années 60 jouait pas comme ça. Là, je pense qu'avec un nouveau coach mexicain, Aguirre, ça peut être un peu plus intéressant et prometteur pour la qualité du jeu.
Oui, parce que c'est ce qui est intéressant, Salim et Frédéric, c'est l'Égypte va accueillir une compétition au moment où son football revient aussi au meilleur niveau, pas au top niveau, mais au meilleur niveau.
Il y a aussi un joueur,
Dominique,
qui a fini sixième au dernier Ballon d'Or entre Messi et Varane. Donc c'est quand même pas mal entre un génie et un champion du monde.
Meilleur joueur en Angleterre.
Ouais, qui sort d'une année civile fantastique, d'une saison exceptionnelle, qui est un joueur que l'Europe entière voudrait avoir dans son équipe. Il y a pas aujourd'hui un club au monde qui peut dire je ne veux pas de Mossala.
Donc c'est le PSG. Hein, rappelez-vous, Naïmri l'a dit il y a pas si longtemps.
Oui, je pense que c'est pour masquer ses échecs. C'est-à-dire qu'il, comme il a pris Ressé, voilà, il préfère dire qu'il a voulu mettre Salah. Ce qui est évidemment complètement faux. Je pensais bien que si le PSG était vraiment mettre ça là, il l'aurait acheté parce que pour 40 millions d'euros à l'époque, parce que c'est plus du tout son prix quand il part de la AS Rome, il est à peu près à ce tarif-là. Aujourd'hui, c'est un joueur qui est à 150, 160 millions d'euros. C'est un des joueurs les plus importants du foot actuel qui permet à Liverpool d'être en tête du championnat anglais, de peut-être glaner ce titre depuis 1990 que toute la ville attend. Voilà, qui est une des raisons majeures pour faire de Liverpool une des meilleures équipes du monde à l'heure actuelle et peut-être un candidat crédible à la victoire en Ligue des Champions alors qu'il a été en finale de la saison dernière. Donc voilà, Mo Salah, il a eu des conflits avec la fédération
égyptienne. On en a beaucoup parlé.
On sait que ça a été très compliqué, mais voilà, il est un petit peu le pharaon de cette
il faudra juste qu'il arrive pas blessé, hein, parce que c'est vrai que la saison risque d'être longue.
C'était pas de sa faute, hein, c'est Sergio Ramos qui avait gâché sa Coupe du Monde et par ricochet la Coupe du Monde de l'Égypte.
C'est vrai que ce sera la première CAN disputée à la fin d'une saison européenne et maintenant africaine et donc lorsque la CAN se disputait en janvier, les joueurs arrivaient souvent au pic de leur forme, en milieu de saison. Là, en fin de saison, on risque d'avoir, comme à l'Euro ou à la Coupe du Monde, des joueurs un peu sur les rotules et avec en plus la chaleur, j'ai quelques doutes là-dessus.
C'est ce que j'allais dire, parce que Mohamed Salah, il faudra surtout l'observer à partir d'avril-mai. Mm-hmm. Alors tout dépendra de d'où est Liverpool, notamment en championnat, voire en Ligue des Champions. Mais est-ce que ce qui s'est passé l'année dernière et au final cette blessure lors des derniers jours avant la Coupe du Monde,
psychologiquement,
est-ce que ça a joué dans sa tête et se dire bon, faut peut-être que je me calme là, faut que je fasse attention à certains gestes, peut-être ne pas aller au fond ou à fond dans certains gestes justement pour me préserver pour la CAN. Après, c'est une CAN qui est dans son pays. Il va pas en avoir 50 000 dans sa carrière.
Avec Liverpool, pensez qu'il va choisir entre la CAN à venir
avec son équipe nationale à domicile. Aussi, ça peut faire.
Ce qui est compliqué, c'est qu'il est dans un championnat où il n'y a pas de trêve. Donc lui, il a commencé en septembre dernier et donc il va finir sa CAN.
Il a eu un peu de mal à retrouver son niveau.
La finale de la CAN est le
13
juillet, donc c'est quand même interminable. Hein. Ouais. Tout ça sans coupure, sans jamais se reposer vraiment, parce qu'il est indispensable. Bon, là, hier, ils ont perdu en cup. Voilà, il a fait tourner, mais sinon il est titulaire indiscutable. Je pense que c'est le premier garçon que met sur la feuille de match Jurgen Klopp avec Ted Allison.
En tout cas, l'Égypte sera au rendez-vous, on peut en être sûr. Sur les 4 CAN organisées en Égypte, ils en ont remporté 3. Hein, donc à domicile, ils sont quasiment
presque imbattables. Eh bien, on y reviendra de toute façon sur cette désignation de l'Égypte. On essaiera d'ailleurs demain d'aller du côté du Caire pour savoir comment les Égyptiens accueillent
comme
cette...
Comme vous l'avez dit, a priori, ce soir, il aura un petit cadeau en plus, Mo Salah.
Il y a des chances, mais il y a quand même Sadio Mané, peut-être, qui peut
il serait pas contre,
aller le chatouiller.
C'est son collègue, mais je pense qu'il est largement
Il a une petite
tête.
Avance. Pour finir cette séquence de foot africain, on va faire un petit clin d'œil aux légendes du football africain, ces retraités de la carrière professionnelle, mais qui gardent la forme. On l'a vu hier dans le stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Les légendes de Sénégal 2002 se sont retrouvées face aux légendes du continent africain. Un petit résumé sonore de cette soirée de gala préparée par Pierre Guérin et avec notamment l'aide de nos confrères de la RTS.
Un grand merci pour être ici, pour être présent. I say a big thank you for all of you to be here pour jouer à l'hommage de Jules François Boukandé, paix à son âme. Il faut vraiment vous amuser. Ça c'est Boubacassa, nous on le connaît comme Locotte.
Michael Essien, la frappe enroulée, c'est le but. Oh, l'ouverture du score pour les légendes du football africain. Michael Essien qui permet à l'équipe africaine d'ouvrir le score ici au stade Boubacar Senghor. C'est le but. L'égalisation de l'équipe sénégalaise. La génération 2002 qui parvient à égaliser grâce à Salif Diawo sur un superbe travail de Henri Camara. Khalil Sissoko va-t-il remporter son duel face à Michael Essien? La frappe et le but contre-pied parfait. Allez, attention à cette balle qui traîne à l'entrée. D'où la surface des réparations. La frappe et c'est le but de Didier Drogba qui met le but du chaos. 3 buts à 2, c'est lui qui permet à l'équipe des légendes africaines de prendre l'avantage à 1 minute de la fin du match.
Voilà, 3 à 2 pour les légendes africaines contre les légendes sénégalaises.
Romelu Lukaku, that is astonishing. Twice in a week he has leapt from the bench and scored for United. Mata scores. Manchester United, he's very much back in favour.
Glory United et les Mancuniens sont-ils de retour au classement de la Première Ligue? En tout cas, c'est sûr. Les voilà sixième et sur les talons d'Arsenal avec soif de mieux. On les connaît, eux, qui avaient terminé deuxième l'année dernière derrière d'autres Mancuniens. Cette place, en tout cas, dans le Big Six, eh bien, c'est grâce aux 4 victoires lors des 4 derniers matchs, c'est-à-dire ceux qui se sont déroulés durant le fameux Boxing Day, cette période qui s'annonçait délicate pour les joueurs de Manchester United, mais José Mourinho avait été viré juste avant l'intense fin d'année. Et ce regain de victoire est-il dû au successeur norvégien, légende du club? Alors c'est Ole Gunnar Solskjaer.
Solskjaer. Voilà, faut prononcer.
On peut dire Solskjaer aussi, non?
Faut le prononcer Solskjaer.
Ouais, dites donc.
À la norvégienne.
Il parle norvégien. Ou en tout cas, bon, c'est comme ça. Alors, Solskjaer. Écoutons l'intéressé s'expliquer justement des raisons de ces victoires des Mancuniens et de son rôle.
Bien sûr, dans le football, le coach doit savoir être un bon leader. Je suis habitué à Manu. Il n'y a pas de problème, c'est ce à quoi je m'attendais. Je sais que c'est un club très important qui suscite beaucoup d'intérêt et qui a beaucoup de fans autour du monde. Il y a donc beaucoup d'excitation autour. Mais comme j'y ai évolué en tant que joueur, ce n'est pas un problème car j'y suis habitué. Ce club connaît ma personnalité. J'y suis resté 15 ans avec Ferguson. Il m'a beaucoup appris et donné de précieux conseils. J'ai eu des super coachs tout au long de ma carrière. Et tout cela a contribué à me former. Et maintenant, je suis assis ici à vous parler.
Solskjaer, donc, est-il un magicien à la tête de ces Diables Rouges qui, on peut dire, hein, l'équipe depuis qu'elle avait perdu Alex Ferguson il y a 5 ans, si je ne me trompe pas, c'était
oui,
en 2013,
ça, en 2013
hein,
oui.
Depuis le départ d'Alex Ferguson, qui était resté 25 ans à la tête de ces Diables Rouges. Est-ce que c'est un magicien qui, soudain, a peut-être trouvé la recette de la succession, Salim?
En fait, on n'a pas envie de s'emballer quand on voit les équipes qui ont été battues par Manchester, en l'occurrence Newcastle, Bournemouth, Cardiff, Huddersfield, donc sur le papier pas des équipes sexy, on est d'accord. Sauf que, d'une part, ces équipes-là n'étaient pas forcément battues à l'époque de José Mourinho, hein. Il y avait des difficultés, voire même des matchs nuls, voire même des défaites. Et puis surtout, quand vous voyez les 11 types qui sont mis en place par Solskjaer, en gros, ce sont grosso modo les mêmes joueurs qui sont mis en place par Solskjaer que ceux mis en place par Mourinho. Mais tout d'un coup, ces joueurs deviennent exceptionnels, ou en tout cas très bons. Paul Pogba, on va s'attarder sur le français qui, quasiment en position numéro 10, est bon, voire très bon. Anthony Martial, pareil. En défense, Lindelöf devient tout d'un coup un très bon défenseur central. David Herrera lui reste bon.
Mais alors, c'est grâce à l'entraîneur?
Ben, j'ai envie de dire, alors, on était avec Mathias Pogba hier, le frère donc de Paul, qui était dans nos locaux à RMC Sport, et qui expliquait que si Paul n'était pas bon, c'est à cause de Mourinho.
Ben attendez, on va l'entendre alors.
Pas trop rentrer dans les détails, mais ça a sa renaissance et c'est le fait que Mourinho ait quitté ce club. C'est Mourinho, basta, point à la ligne. Dans le vestiaire, en dehors du vestiaire, tout, c'est lui.
C'est simple, hein, c'est tout, c'est lui. Alors, on aurait tendance à le croire avec, au vu des résultats, alors, parce que effectivement, on va séparer après, on va en parler de ces quatre équipes qui ont été battues et ce que ça peut signifier. Mais en tout cas, sur effectivement le comportement des joueurs, et on a l'impression, et là, peut-être qu'ils veulent faire plaisir à cet entraîneur, c'est ça?
Oui, après, il y a peut-être aussi, à coup sûr d'ailleurs, un respect qui se dégage avec Ole Gunnar Solskjaer. Patrick, en off, disait, il a l'impression de voir Zidane, entre guillemets. Bon. Solskjaer, c'est vrai que c'est un homme,
non,
c'est un homme qui a compté pour Manchester United, évidemment, le fameux super sub, lui qui a marqué notamment ce but décisif en finale de Ligue des Champions en 99. Zidane, c'était évidemment un homme de ce type au final au Real. Ben, les joueurs le connaissent, les joueurs l'ont vu jouer et les joueurs le respectent. Ce qu'il n'avait plus du tout pour Mourinho. Mourinho ne dégageait, enfin, on n'avait plus aucun respect pour lui. Ça a peut-être changé, effectivement.
Dominique, on sait, on voit que des fois, le changement d'entraîneur peut provoquer aussi des changements profonds dans une équipe. Mais Mourinho, en dépit de son sale caractère ou de son sale rôle qu'il veut tenir notamment devant la presse, c'est quand même un super entraîneur. Il n'a pas mérité ce nom de Special One si longtemps pour rien. Donc, vous pensez aussi que c'est dû à la personnalité, au comportement, à ce qu'il exigeait aussi de ses joueurs?
Alors déjà, on était dans la troisième saison de Mourinho.
Tout à fait.
Oui, bien sûr, c'est la fameuse troisième année.
C'est un entraîneur qui a un palmarès fantastique, qui est très usant pour ses joueurs, mentalement et dans le style de jeu très restrictif. On parlait d'Hector Cooper tout à l'heure. Mourinho, c'est peut-être le fils caché. C'est le bus plus le
jumeau.
Le bus est
la
vraiment
seule
fermé.
Différence, c'est le palmarès. Quoi.
Voilà. Le bus, est, mais bon, il y en a un qui est plus jeune que l'autre, c'est pour ça. Mais et le bus est vraiment fermé à double tour et les clés, bah, je pense qu'il les a perdues.
Ah, il les a achetées.
Donc c'est et je pense que c'est une libération pour ces joueurs-là. Ils retrouvent le plaisir, ils sont libérés parce que Solskjaer, c'est ça?
Solskjaer.
Tout à fait. Il leur dit juste de pour l'instant la part de Solskjaer elle est encore inconnue sur ces quatre matchs. On verra d'ailleurs contre le Paris Saint-Germain ce qu'il est capable de faire tactiquement, tout ça. Je sais pas si c'est encore un grand entraîneur, c'est l'avenir qui nous le dira, notamment ce match-là puis peut-être d'autres. Mais pour l'instant, je pense que c'est uniquement le départ du Mourinho qui les a libérés. Ils sont complètement transformés.
Quatre matchs, quatre victoires comme
Pogba
ça immédiatement.
Transformé. Moi je l'ai dit avant que son frère le dise, donc voilà, je suis content que son frère le confirme. Les joueurs n'en peuvent plus de parce qu'en plus c'est une équipe où il y a énormément de talent. Il y a du Mata, il y a du Lingard, il y a du Lukaku, il y a du Pogba,
Lukaku recommence à marquer.
Il y a une pléiade de joueurs offensifs et on leur demandait de quasiment jamais franchir la ligne médiane. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, les footballeurs ils sont pas là pour ça. Et ce qu'ils aiment, c'est s'entraîner avec le ballon, c'est marquer des buts, c'est ça le football. Et eux, si on leur dit c'est défendre pendant 90 minutes et surtout ne pas prendre de buts, bah c'est une vision du football que très peu de joueurs partagent.
Et la notion de plaisir qui est évoquée par Dominique, je vais la prolonger d'une autre manière. Nous tous, dans notre emploi, nous avons un N+1, un chef, par exemple, le réfé pour vous, Annie. Demain, le réfé vous voit et vous dit « Annie, là, t'as mal fait les choses, là, c'est pas bien, là, c'est... » Déjà, c'est pas possible, évidemment. Mais imaginons
c'est
ça.
La fiction, ouais.
Forcément.
Mais qu'ils le disent tous les jours, surtout.
Qu'ils le disent tous les jours.
Oui, c'est ça. Non, mais forcément, on le prendra très mal, etc. Sauf que.
Jamais d'encouragement.
Ole Gunnar Solskjaer, les premières conférences de presse, les premiers mots envers Pogba, envers tous les joueurs, c'est de la câlinothérapie absolue.
Et puis,
ce sont des êtres humains. Ils aiment ça.
Et tu oublies que, pour prendre ton analogie, en plus, leur effet dirait tous les jours, mais c'est moi le meilleur. Mais c'est quand même moi le génie. C'est quand même moi qui.
peu vrai aussi. Hein.
Non, mais c'est vrai. Faut lui faire rien trois avec vos doigts, vous aussi.
Mourinho, quand même, c'était toujours moi-jeu, quand même.
Tout à fait, c'est vrai.
Il a un peu humilié Pogba, humilié les autres. Il est d'un point de vue de la communication. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un génie. Je trouve que ces dernières années, il avait perdu sa potion magique, quand même.
C'était devenu. Ça fait plusieurs années que ça marche plus, Mourinho. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait un grand club qui aurait envie de faire venir Mourinho? On regarde ce qui s'est passé à Manchester. Il a épuisé ses joueurs et la magie Mourinho, elle commence à remonter à quelques années maintenant. Inter Milan, Porto, ça fait loin quand même.
Il était populaire dans le vestiaire du PSG il y a quelques années, il le voulait. Et puis quand un jour, avec Chelsea, ils ont rencontré le Paris Saint-Germain, il a dit je suis content parce que comme ça, les fans n'auront pas beaucoup de voyages à faire, ils prendront l'Eurostar. Là, les joueurs ont dit mais pourquoi il humilie le Paris Saint-Germain, et les joueurs ne veulent plus entendre parler de Mourinho. Parce qu'ils sont souvent consultés par Nasser Al-Khelaifi pour un changement d'entraîneur. Ils ont dit Mourinho, c'est niette.
Non, mais c'est vrai, tout ce qui est dit est vrai, mais moi je pense qu'il faut quand même pas tout réduire au départ de Mourinho, qui était arrivé au bout de ce qu'il pouvait
faire. Non, là on se
demandait
si c'était
moi, pour moi, c'est un très bon choix, parce que vous parlez de résultats et vous dites oui, c'est des équipes faibles, donc d'accord, mais il y a
pas faibles, mais en tout cas, elles ne sont pas dans le Big Five.
C'est la seule équipe à avoir gagné les 4 matchs Boxing Day,
Manchester United. Ensuite, au-delà des résultats, il y a la manière.
Aussi,
et on a retrouvé une fraîcheur et un enthousiasme et une qualité de jeu qui était plus là depuis longtemps avec Mourinho, qui ne pouvait ne faire illusion que quand Manchester était contre un plus fort que lui et qu'il fallait jouer sur la défense. Mais quand il devait faire le jeu, il ne savait plus. Et ensuite, moi j'aime sa com, il dégage quelque chose. Non, mais même Zidane, rappelez-vous au début de l'arrivée de Zidane au Real, les gens disaient ah oui, mais c'est facile, il a des stars, il fait juste du mental, mais on sait pas ce qu'il vaut. Moi je pense que Solskjaer, on est au début d'une belle histoire avec ce club, et
possible,
en fait, il reconnecte un club historique avec son passé.
Ouais.
Il ferme une parenthèse pourrie qui a commencé avec David Moyes et qui vient de se terminer. Je pense qu'il ouvre autre chose. Et comme l'a dit Salim en rigolant, mais peut-être pas en rigolant, le match contre le PSG pourrait être le marchepied vers quelque chose de grand.
Tu as peut-être raison, mais ton analyse sera confirmée ou pas dans le temps. Mais moi, j'en sais rien du tout. Mais simplement, ça ne peut pas être que lui. Quand tu vois la transformation dans le jeu, un entraîneur ne peut pas.
Oui, mais ça peut pas être que le départ de Mourinho.
Non, mais t'as forcément une part qui est due au fait de se sentir libéré d'un poids et de mentalement d'être complètement transformé. Parce qu'un entraîneur, tout entraîneur, il lui faut au moins 2 mois pour construire une équipe, pour qu'elle adhère à ses principes de
l'équipe,
jeu.
L'équipe, Dominique, l'effectif est bon déjà. Il y a pas de faille énorme dans cet effectif. Il est bien constitué globalement.
Mourinho disait qu'il manquait des défenseurs centraux. Là-dessus, on pouvait lui.
Mourinho,
il avait raison.
Après,
ils ont pas des très grands défenseurs.
Non, totalement. C'est peut-être effectivement là le point faible au final de cette équipe de Manchester United, parce qu'au milieu de terrain, quand on observe le milieu de terrain, je pense que ce sont des très bons milieux de terrain. Les attaquants, Rashford, c'est peut-être lui au final la trouvaille de Ole Gunnar Solskjaer aujourd'hui, puisque Rashford joue désormais en numéro 9, là où habituellement c'est Lukaku qui joue à ce poste-là. Lukaku était un peu moins bien. D'ailleurs, il recommence à marquer. Il l'a fait notamment en cup ou même
surtout
en championnat.
Lukaku a le profil pour jouer à deux en pointe. Hein.
Tout à fait.
Peut-être un attaquant fixe avec un attaquant plus mobile autour.
Aussi, exactement. Mais aussi donc Rashford qui a joué en numéro 9, il a été excellent à ce poste-là, j'insiste. Et pour le coup, quand vous avez vos supporters de United qui voient Ole Gunnar Solskjaer arriver, qui voient Marcus Rashford, donc un joueur formé au club, qui est à la pointe de cette équipe de United, en fait, si vous voulez, vous avez tous les feux qui sont au vert. Tout va bien dans l'esprit des supporters de United, chez les Rouges. Mais après, le test, ce sera notamment ce week-end. Il y a un Tottenham United. Donc là, un premier grand adversaire pour cette équipe. Et là, si vous faites en revanche un résultat, eh bien là, on pourra commencer effectivement à se dire que peut-être Solskjaer a effectivement réussi quelque chose.
Moi, je pense qu'ils vont avaler déjà Arsenal. Parce que
ils sont à quelques points.
Ils sont à 3 points d'Arsenal.
Je regarde les dynamiques des deux équipes et ça défend encore plus mal à Arsenal qu'à United.
Exactement.
Dominique n'a pas perdu du vieux Unai
Emery.
Ça, je peux vous dire que j'ai bien regardé Liverpool Arsenal.
D'autant qu'il y a West Ham Arsenal ce week-end et qu'Arsenal va perdre à West Ham.
Ça, je sais pas.
Effectivement, mais je dis. Donc effectivement, ça va permettre à United.
Moi, j'aime bien regarder les matchs sur votre antenne. Alors, ne donnez pas les scores avant, parce que sinon.
13h30 ce samedi en France.
Ça tue un peu le suspense.
Avant qu'on passe à cette future confrontation avec le PSG, une question au sujet de Paul Pogba, Dominique. Ce Paul Pogba, ça fait longtemps qu'on dit il est pas au niveau, machin. Là, il avait bien commencé après la Coupe du Monde où il a été ce que Didier Deschamps voulait. On le voit bien commencer, ça se passe bien avec Mourinho. Tout d'un coup, il y a cette fracture là, il disparaît un peu. Il revient, il marque. Hein, il a marqué plusieurs buts durant ces quatre matchs. Voilà. Est-ce que vous entrevoyez enfin, je dirais, en club, sur la constance, un Paul Pogba au niveau?
Alors moi déjà, ce qui m'intéresse, c'est de le voir à son niveau en équipe de France, comme il l'a fait à la Coupe du Monde. Ça, c'était, je trouve qu'il a fait une très très bonne Coupe du Monde. Ça, c'était super.
Oui, à la Juve, apparemment, à la Juve, juste son importance dans le vestiaire, hein, on l'a bien vu.
Il a eu des séries de matchs hyper importants. Et après, Mourinho, pour moi, en avait fait un bouc émissaire. Et même, il avait alimenté les clichés, alors que aussi Paul Pogba alimente lui-même sur sa coupe de cheveux, sur les réseaux sociaux, sur tout ça. Donc, voilà, comme il aime bien allumer des contre-feux, Mourinho, il avait voulu que les supporters, que l'attention se porte sur Paul Pogba en disant, bah, c'est un transfert à 105 millions d'euros, et bah, regardez ce que ça donne. Voilà. Alors que, comme tout joueur de football, bah, il marche à l'affectif, et donc ça ne pouvait pas fonctionner à quelqu'un qui le brimait en permanence. Donc, évidemment, qu'on va voir le vrai Paul Pogba, parce qu'il a, combien, 26 ans, 25
ans? Il a 25 ans.
Il a 25 ans, donc il arrive à la maturité, c'est le cliché du foot, mais il est complètement dans ses meilleures années.
64 sélections déjà.
Voilà, il est un patron, il a changé de dimension sociale dans le vestiaire d'équipe de France, il a pris la parole alors qu'avant il faisait pas ça lors de l'Euro 2016 ou de la Coupe du Monde 2014 où il a débuté sa première compétition internationale. Donc c'est un joueur et un homme différent
en devenir.
On va vers les meilleures années de Paul Pogba.
Et je vais même dire, il va changer désormais de statut dans le vestiaire de Manchester United avec l'arrivée de Solskjaer justement, puisque le Norvégien le connaît extrêmement bien. C'est lui qui l'a entraîné en jeune à United lorsque Pogba, avant d'arriver à la Juve, était déjà chez les jeunes de United. Il le connaît très bien. D'ailleurs, tout comme Jesse Lingard, les deux hommes étaient sous les ordres de Ole Gunnar Solskjaer. Lors de la toute première conférence de presse de Solskjaer, le Norvégien a dit, Pogba, c'est autour de lui que je vais faire mon équipe.
C'est encore un point commun avec Zidane, hein, ça. C'est...
Ouais.
Non, mais il avait la Castilla, Zidane, avant d'avoir le Real.
Exactement.
Et moi, je vais dans ce sens-là. Pogba a quand même besoin d'être un peu aiguillonné. On peut pas dire qu'on peut lui laisser faire ce qu'il veut, parce qu'il a tendance parfois à s'éparpiller trop. Alors Mourinho, l'année dernière, la saison dernière, avait parfois titularisé le jeune McTominay à la place pour un peu rabattre le caquet de Pogba, mais il est allé trop loin, Mourinho, là-dedans, et je pense que Solskjaer, comme vous l'avez dit, saura mieux le gérer. On sent qu'il est plus psychologue et il dégage des ondes positives, cet homme. On le voit. Moi, c'est pas parce que j'ai adoré le Manchester de Ferguson que je dis ça, mais on voit qu'il y a, au-delà de la calinothérapie, on sent qu'il a une idée précise. On sent qu'il a une certaine idée du football dans ce qu'il propose sur le terrain. C'est pas qu'un géo, quoi. C'est un entraîneur aussi.
Il y aura peut-être un nouveau rôle pour lui en équipe de France, avec cette position quand même très offensive. Ce qui n'est pas tout à fait le cas en équipe de France, on le demande de beaucoup plus travailler.
Alors que lui aime bien d'ailleurs cette condition.
Voilà, donc ça peut être intéressant pour les Bleus à l'avenir, avec derrière par exemple Griezmann et Mbappé.
Oui,
devant, il est très adroit devant le but, on l'a vu en finale de
voilà,
Coupe du Monde.
Voilà, devant Kanté et Matuidi, ça peut être un système intéressant.
Oui, ou bien devant Kanté et Ndombele aussi, voilà, si jamais Matuidi est un peu, enfin s'il y a de la rotation.
Oui, oui, bien sûr.
Alors, projetons-nous mardi 12 février. Dans les bois, oui.
2-0 pour United.
Ah, ça sera donc le 8e de finale de Ligue des Champions. Manchester United contre le PSG. Lors du tirage au sort, on se souvient que la théorie c'était un peu c'est peut-être un bon moment pour le PSG pour avoir ce Manchester United. Que ce Manchester United était de José Mourinho, ce n'est plus José Mourinho et
c'est bien très mauvais tirage.
Écoutons le monstro du PSG, le capitaine, Thiago Silva, évoquait justement ce nouvel adversaire qui a changé de visage.
Après le départ de Mourinho, ils ont joué 4 ou 5 matchs, ils ont gagné les 5. Et pour nous, ça change rien, parce qu'on a beaucoup de respect pour cette équipe, même si ils ont passé pour le moment que ce n'était pas facile. Mais ils sont toujours une grande équipe. Et grandes équipes, il faut respecter. Mais en même temps, il faut avoir la confiance pour jouer ce match-là, parce que c'est un match qui peut nous donner la possibilité d'y aller à la quatrième de finale. Et c'est pour ça qu'on doit travailler.
possibilité d'aller en quatrième de finale.
Quart de finale, c'est compliqué.
Ce sont des quarts de finale, oui, c'est-à-dire ça se dit.
Les quatrièmes de finale, c'est les quarts de finale pour les gens qui ont 14 ans, c'est ça?
Oh, vous êtes très très méchant déjà, Patrick Juillard.
Non, mais...
Alors, pourquoi Salim, dites-vous? Parce qu'il dit...
C'est son côté Gilles Verdez, j'ai
toujours de...
l'anti-France.
Exactement, oui, bien sûr.
Pourquoi 2-0 pour Manchester United? Non, vous les voyez.
Je suis taquin. Disons, évidemment, comme vous l'avez dit, en 24 heures, tout d'un coup, on est passé, on va dire, de 90% PSG qualifié, 10% United à... On va dire 65-35, parce que oui, quand même, le PSG reste favori, c'est pas parce que vous changez un nom et sur le banc que tout d'un coup, le titre de favori change de côté. En revanche,
on vient d'essayer d'expliquer que qu'un nom avait changé.
Alors, plus qu'un nom, ok, il y a des joueurs, j'attends le gros test dimanche déjà, face à Tottenham, parce que s'il y a 4-0 lundi, on pourra en parler peut-être plus difficilement. Après, le point faible de cette équipe aujourd'hui, même face à des équipes moindres, c'est la défense centrale. On a quand même un peu trop vu David De Gea, hein, puisque heureusement il était là pour arrêter certaines tentatives. Donc le jour où cette défense sera plus intéressante, où Eric Bailly sera régulier, parce que lui aussi, si Solskjaer arrive à en faire quelqu'un de régulier, là ça peut devenir encore plus intéressant. Et là on pourra dire Solskjaer a effectivement fait du bon boulot. Lindelof également est plutôt bon, hein, d'ailleurs, depuis l'arrivée du Norvégien. Mais bon, ça reste encore fragile.
Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que Mourinho aurait attendu le Paris Saint-Germain chez lui sans laisser d'espace.
Tout
et que
fait.
Maintenant, Solskjaer va essayer de jouer. Le match aller a lieu à Manchester. À Old Trafford. Mm-hmm. Donc il va jouer. Et donc ça, c'est plutôt bien aussi pour le Paris Saint-Germain.
Exact.
C'est pas bien pour sa défense, mais c'est bien pour le Paris Saint-Germain parce que ça va libérer les espaces. Or, quelles sont les caractéristiques de Cavani, Mbappé et Neymar? C'est quand même des dévoreurs d'espace et d'aimer ça. Et on l'a vu dans un mauvais jour à Anfield. Le 18 septembre dernier, ils ont quand même réussi à mettre deux buts à Liverpool, qui en prenaient très peu, et ils étaient vraiment assez mauvais collectivement, voire très mauvais ce jour-là. Donc dans un bon jour, face à un Manchester qui, devant son public, avec une nouvelle philosophie de jeu, doit faire le jeu et attaquer, c'est pas non plus si mal que ça, d'un point de vue tactique, pour le Paris Saint-Germain.
Patrick. Oui, alors la question, c'est l'expérience aussi de Solskjaer pour la Ligue des Champions. Alors il n'en a
il
aucune
l'a en tant que joueur.
Comme entraîneur, mais il en a une très importante. Comme joueur, et c'est quelqu'un qui, comme joueur, savait particulièrement gérer les moments clés d'un match. Et la preuve, c'était le super sub, l'homme du Fergie Time, le joueur qui rentrait pour souvent faire la décision. Et le plus bel exemple, c'est la finale de 99 où il a crucifié le Bayern Munich dans les dernières minutes. Donc, le PSG doit se méfier. Effectivement, dans l'absolu, le PSG n'a pas de complexe à faire face à cette équipe. C'est-à-dire, si on regarde les deux effectifs, le PSG est largement armé pour éliminer sur deux matchs en particulier, et pas sur un seul, cette équipe-là. Donc, maintenant, il y a toujours une part d'irrationnel, il y a toujours une part de... un peu des forces de l'esprit qui peuvent habiter une équipe. Et si, c'est quand même important. Et c'est pour ça que la Juventus est souvent très forte parce qu'elle a cette part de supplément d'âme que le PSG parfois a manqué parfois au PSG ces dernières années.
C'est un club historique, c'est
rappelons-nous
un club mythique.
Rappelons-nous certains matchs à Barcelone.
C'est un club mythique du football, c'est un club légendaire du football européen, ce qui n'est pas encore le cas du Paris Saint-Germain. C'est un club qui a une histoire. Donc voilà, à chaque fois qu'il rencontre Barcelone, la Juve, Liverpool, Manchester United, il est confronté.
Il manque un petit quelque chose.
Oui, au supplément d'âme. Mais après, ce qu'il y a de bien, c'est que les arguments sont réversible, on peut dire aussi que le départ de Mourinho maintenant va réveiller le Paris Saint-Germain. Il pouvait se dire bon bah
on est tranquille,
on était tranquille, on va pas, combien 65-35,
oui c'est ça, voire davantage.
Maintenant ils peuvent se dire c'est 50-50 ou 55-50. Et là maintenant ils vont peut-être
moi
faire
je crois
attention.
Que c'est plutôt 50-50, hein,
ouais,
ça remet
ça, ouais.
Les compteurs à zéro et c'est la promesse surtout d'une superbe affiche, deux matchs qui vont être passionnants. On parlait de Paul Pogba complètement libéré, vous imaginez le retour au Parc des Princes
le 6 mars,
Paul Pogba champion du monde
au pays,
parc, Neymar en face
et qui marque le but de la qualif de United.
Magnifique.
Ils ont le même agent que Marco Verratti, Mino Raiola, qui est un agent un peu historique du Paris Saint-Germain du début, avec Maxwell, Zlatan Ibrahimovic, Matuidi. Voilà, donc il y a beaucoup d'amis de chaque côté. Mbappé, Pogba, c'est quand même... Mbappé est très admiratif de Pogba, de sa carrière, d'être aussi jeune, avoir été une idole, une icône à la Juve, à Manchester, dans des clubs qui comptent, qui pèsent. Ça, c'est le genre de choses que Mbappé respecte, un garçon qui est complexe, Mbappé, on peut pas toujours lui parler, mais là il y a des quand il y a des gros modèles, là il écoute, et donc Pogba, il y a une espèce de rivalité sourde avec lui, mais surtout de l'admiration.
Ça se termine au tir au but, oui.
En tout cas, il y aura un beau suspense jusqu'à la date de ce match parce qu'on va regarder notamment ces deux équipes à la loupe. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce Radio Foot International, le premier pour vous de cette année 2019. Merci aussi à Pierre Guérin qui m'a aidé aujourd'hui à préparer l'émission. Laurent Salerno était donc à la réalisation et on vous dit à demain.